Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Cette année où à Toulouse, nous évoquons beaucoup l'archevêque, alors évêque Saliège, l'évêque aussi de Montauban, Théas, que je pense que nous avons peut-être un petit peu tendance régionalement à oublier dans l'hommage mémoriel qui est rendu et qui est une figure essentielle de la résistance, y compris de la résistance dans un sens plus traditionnel, car il était lié aux organisations, au mouvement uni de la résistance en zone sud. Lorsque nous avons préparé cette journée, naturellement, j'ai demandé à Nina si elle acceptait de nous présenter ses travaux dans les archives du Vatican. Elle nous en parlera sur l'attitude de l'Église catholique face à la Shoah. Mais je lui ai aussi demandé aujourd'hui d'évoquer pas uniquement la question des sauvetages et de ces figures auxquelles nous rendons hommage, mais aussi une tradition antisémite et des attitudes plus pondérées, ou en tout cas pas du tout pondérées, mais plutôt favorables aux persécutions antisémites. Merci beaucoup Nina d'être présente et de venir nous parler aujourd'hui.
Alors merci beaucoup Antoine pour cette présentation et pour vraiment cette invitation. Et merci à tous et à toutes d'être présents cet après-midi. Alors je vais commencer tout de suite. Je souhaiterais en fait partir des mots frappants du père jésuite Roger Braun, qui est aumônier général adjoint des camps de zone sud. Le 2 septembre 1942, il adresse au nonce, c'est-à-dire l'ambassadeur du Vatican à Vichy, un rapport. C'est une lettre qui provient des archives du Vatican. Un rapport intitulé « À propos des récents événements de Lyon » qui se réfère à l'amitié chrétienne et au sauvetage des enfants du camp de Vénissieux. Et la conclusion que vous voyez ici de la lettre, je cite « Dans toutes mes visites à Lyon, couvent, famille et à Vichy, ainsi qu'à Riom, j'ai trouvé chez des prêtres séculiers, religieux de plusieurs ordres, religieuses, civiles, de toutes confessions et nationalités, fonctionnaires même, un étonnement et presque un scandale de voir la hiérarchie, et même Rome, restait silencieuse, à l'exception des évêques de Toulouse et de Montauban. » Donc Braun pointe ici le caractère exceptionnel, ou du moins minoritaire, des premières protestations de l'Église catholique contre les rafles de l'été 1942 en zone libre, les lettres pastorales de Mgr Saliège, donc archevêque de Toulouse, lues le 23 août, puis de nouveau le 30 août 1942, et celle de Mgr Théas, archevêque de Montauban, écrite le 26 août et lue le 30. Ces deux lettres donc sont présentées comme des exceptions dans le rapport de Braun. Nous sommes le 2 septembre, alors on sait que ces lettres ont été ensuite suivies de celles du cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, le 6 septembre, le même jour que celle de Mgr Delay à Marseille, celle de Mgr Moussaron à Albi étant lue le 20 septembre. Donc on connaît ces lettres, on connaît les différences entre elles, celle de Saliège et Théas étant nettement plus explicite, plus forte et solennelle dans leur condamnation des rafles. Et on en sait effectivement l'impact qu'a rappelé notamment Laurent tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans la citation de Roger Braun, c'est la mention de Rome et donc du Vatican, et la question de l'articulation entre contexte français et Vatican. Et puis cette citation pointe également la question des silences. La question du silence est une question qui traverse l'Église à cette époque, à tous les niveaux en fait, de l'Église, notamment les cahiers du témoignage chrétien, qui dès novembre 1941 appelait à rompre solennellement le silence, mais jusqu'à l'été 1942, la voix clandestine des cahiers du témoignage chrétien reste isolée. Et puis le pape lui-même, Pie XII, est conscient de cette question. Le 10 octobre 1941, il demande à son délégué apostolique, donc là aussi l'équivalent d'un ambassadeur, à Istanbul, Mgr Roncalli, qui est le futur pape Jean XXIII, si, je cite, « son silence à propos des agissements du nazisme n'est pas mal jugé », donc démontrant un souci de l'opinion publique. Et donc, en effet, l'Église catholique reste silencieuse, du moins jusqu'à l'été 1942, notamment face aux deux statuts des Juifs en France. Donc, pourquoi le silence est-il rompu à l'été 1942 ? Quelle est la portée des protestations ? Et surtout, s'articule-t-elle, oui ou non, et dans quelle mesure, aux politiques du Vatican ? Donc une question, la question de l'articulation avec le Vatican restant encore peu étudiée et recherchée, puisque les archives, effectivement, viennent d'ouvrir. Alors, la question se pose à trois niveaux, hein, au minimum. La hiérarchie ecclésiastique en France, le représentant du Vatican en France, donc c'est-à-dire le nonce à Vichy, Mgr Valéry, et le contexte plus général à Rome, donc la politique du Saint-Siège. Donc j'évoquerai ces différents contextes à travers plusieurs points que je voudrais, une série de points que je vais aborder ici. Mon plan est beaucoup moins construit que celui de Laurent, mais c'est pour essayer de comprendre le sujet dans sa complexité. Alors tout d'abord, il faut partir de la longue durée. La longue durée, en effet, parce que les réponses de l'Église face à l'antisémitisme de l'entre-deux-guerres, puis face à la Shoah, ne peuvent se comprendre sans prendre en compte la longue histoire des relations entre judaïsme et christianisme et ce qu'on appelle la mémoire historique de l'Église, c'est-à-dire un cadre de pensée et d'action d'une institution pluriséculaire qui va conditionner en partie ses silences et ses accommodements face aux persécutions antisémites. Toute la difficulté dans le débat aujourd'hui, dans la mémoire, c'est de comprendre pourquoi et comment la Shoah a pu se dérouler dans des terres de tradition chrétienne. Et cette tradition, elle est effectivement ambivalente, puisqu'elle est partagée d'une part entre un message biblique, évangélique, de fraternité, de paix, de charité, et d'autre part, un antijudaïsme pluriséculaire et institutionnalisé. Ici, je vous ai montré un vitrail le vitrail des Billettes à Saint-Étienne-du-Mont à Paris, qui représente notamment le mythe de la profanation de l'hostie par des juifs. Là, on est au XVIe siècle. Et la réutilisation du mythe du déicide dans Der Stürmer, qui est la publication nazie antisémite, disons, principale. Donc le recyclage de ce langage. Par le terme « enseignement du mépris », l'historien Jules Isaac désigner l'inculcation d'un message chrétien anti-juif au fil des siècles. Un enseignement qui se fonde sur l'idée d'un dépassement du judaïsme par le christianisme. C'est ce qu'on appelle la théologie de la substitution, qui est représentée ici notamment dans cette allégorie de l'église triomphante et de la synagogue aveugle, sur le portail de la cathédrale de Strasbourg. Cette idée que les juifs refuseraient obstinément de reconnaître Jésus comme le Messie. Ils auraient même collectivement tué le Fils de Dieu, d'où l'accusation de déicide et de perfidie qui est recyclée dans différents mythes. Et l'idée qu'un châtiment divin se serait alors abattu sur les Juifs condamnés à l'errance et à la souffrance. C'est une des interprétations du verset de Matthieu 27, « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ». Donc ça explique au minimum une culture de l'indifférence ou du fatalisme qui est présent à l'époque contemporaine chez les chrétiens et chez les catholiques face aux persécutions et face à la Shoah. La stigmatisation s'est doublée d'une exclusion sociale et politique mise en place notamment par la politique des papes. Une politique des papes qui est ambivalente, qui a bien sûr fluctué au fil des siècles. Puisque d'un côté, on a une forme de protection pour garantir la survie des Juifs, puisque c'est la conception paulinienne du rôle providentiel des Juifs, qui suit la théologie de saint Augustin, de peuple témoin de la Passion. Donc d'un côté, on a une forme de protection. De l'autre, on a une législation pontificale d'exclusion, qui est celle notamment de Innocent III, que vous voyez ici en 1215, qui oblige les Juifs à porter un signe distinctif, qui sera appliqué après dans différents pays selon différentes formes. Ici, on voit la rouelle, donc c'était cette roue de couleur jaune, couleur infamante. Mais on a également la politique de Paul IV en 1555 qui fonde le ghetto de Rome. Donc c'est cette idée en fait du double protectorat. Séparer les Juifs des chrétiens, soi-disant pour les protéger de la violence potentielle de la population chrétienne, mais surtout protéger les chrétiens de la perfidie juive. C'est encore le terme qui est récité lors de l'oraison du Vendredi Saint. Et cette idée de double protectorat, elle devient celle d'une ségrégation cordiale qui est mise en avant par les publications du Vatican au XIXe siècle, et notamment la Civiltà Cattolica. Donc même dans la modernité, et encore plus avec l'émancipation juridique des Juifs, l'Église catholique encourage, prône, défend l'idée d'une séparation juridique des Juifs. Donc l'ambivalence est ainsi courante dans des discours catholiques durant l'entre-deux-guerres et face aux persécutions. Et je citerai ici le cardinal Baudrillard, donc, qui est recteur de l'Institut catholique de Paris, qui note dans ses carnets à la suite de la rafle des Juifs du 20 août 1941 à Paris. Pour lui, l'État a le droit de prendre des mesures de défense contre les Juifs, mais à condition que ces mesures respectent des principes de charité et de justice. Je cite ici. Et maintenant, c'est l'universelle persécution des Juifs, et l'on a vu, il y a quelques jours, un grand quartier de Paris, barré, fermé pour les traquer plus aisément. Triste et violent spectacle. Ce n'est pas que la question juive, religion, race, nation, n'existe pas et ne demande pas de solution, mais que cette solution soit humaine, tout en tenant compte du danger qu'il représente pour chaque peuple. Donc un tel cadre de pensée ne peut être éludé dans l'analyse de l'attitude de l'Église durant la Shoah. Et toute la question difficile pour les historiens est d'évaluer dans quelle mesure cette culture de stigmatisation a pu influencer ou non les prises de décision face à l'urgence humanitaire. Et c'est une question qui est brûlante dans le cas du Vatican. Alors pourquoi ? Parce que depuis le 2 mars 2020, avec une annonce qui avait été faite un an avant par le pape François, les archives du pontificat de Pie XII, pour la période 1939-1958, ont été ouvertes au public d'historiens. Une décision que le pape François avait annoncée en déclarant « L'Église n'a pas peur de l'Église, de l'histoire. » Pardon. Mais ça marche aussi. Maintenant, donc, ce sont plus de 16 millions de feuillets qui sont répartis entre différents centres de conservation, qui sont accessibles aux chercheurs. Donc, c'est un patrimoine énorme. Et ce sont notamment des lettres, des brouillons, des photos qui donnent plus de chair à une histoire, disons, qui pourrait être purement diplomatique et donc qui est plus, disons, beaucoup plus diversifiée. Un document d'archives du Vatican peut être... voilà une photo à l'intérieur des archives du Vatican qui se trouve à l'intérieur du palais apostolique. C'est l'attention médiatique au moment de l'ouverture des archives, hein, avec ici le titre de la croix. Donc un document d'archives, je ne sais plus si j'en ai un après, non. Un document d'archives du Vatican peut être parcouru de ratures, de retouches à plusieurs mains, de repentirs, de corrections, qui sont autant d'indices du processus interne de décision du Vatican. Puisque, en fait, et ce dont témoignent ces documents d'archives, c'est la forte réflexivité du Vatican à l'époque, une préoccupation constante sur la manière dont les dires et les actions du Vatican sont perçus. Ce qui m'amène effectivement à revenir sur pourquoi autant de polémiques mémorielles autour de ces ouvertures, de cette ouverture des archives du Vatican. C'est depuis 1963, avec notamment la publication, enfin la pièce de Rolf Okout, le vicaire, qui accusait de complicité silencieuse le pape Pie XII. Et qui avait été adapté aussi au cinéma en 2002 par Cossa Gravas. Et la première de cette pièce de théâtre au théâtre L'Athénée à Paris avait provoqué, vous le voyez ici, en décembre 1963, littéralement des bagarres parmi le public. Donc ces polémiques sont alimentées aujourd'hui également par un autre procès, non pas le procès à charge contre Pie XII, mais le procès en canonisation de Pie XII. Donc d'un côté, on a une logique de procès à charge, de l'autre, un processus interne à l'Église de ce procès en canonisation de Pie XII qui a été ouvert dès 1967. Dans les deux cas, procès à charge comme procès apologétique, on a une extrême focalisation sur le pape, qui limite en fait la compréhension du sujet. Comme l'avait souligné l'historien italien Giovanni Miccoli, qui est l'auteur d'une somme qui est probablement à ce jour la plus complète sur cette question, qui s'appelle justement « Les dilemmes et les silences » de Pie XII. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette focalisation sur le pape nous fait croire que tout découle dans l'Église d'une volonté pontificale, ce qui est faux. Rome a beau prêcher la centralisation hiérarchique, le monde catholique n'est pas un bloc monolithique. Et c'est justement l'avantage de ces nouvelles archives ouvertes de nous montrer les tensions, les débats internes, les décalages au sein du Vatican, mais aussi à plusieurs échelles de l'Église, et notamment parmi les églises nationales. Donc l'idée, c'est d'aller au-delà du pape, hein, c'est de voir la multitude justement d'acteurs qui, par rapport à cette question, rentrent en jeu. Donc tout ne peut pas se résumer à la personnalité de Pie XII, ce qui m'amène à une petite considération sur qu'est-ce que le Vatican. Le Vatican est un État ecclésiastique, donc c'est vraiment ce qui en fait sa particularité, c'est un pouvoir à la fois spirituel et temporel. C'est un micro-État, sans armée et avec une souveraineté très limitée. Pour cette raison, il est souvent impuissant à s'imposer dans la géopolitique des États, et notamment dans la guerre. Mais il a d'autres moyens d'influence qui sont la charité, l'opinion publique, ses réseaux ecclésiastiques transnationaux et sa diplomatie. En fait, une sorte d'ONG ou de soft power, si on veut, avant l'heure. Parce qu'il est à la tête de l'Église et représentant de tous les catholiques dans le monde, le pape estime qu'il ne peut pas prendre parti pour une nation catholique contre une autre. Donc c'est un principe de neutralité qui est appliqué notamment durant la Première Guerre mondiale et surtout durant la Seconde Guerre mondiale. Ce principe d'impartialité, de neutralité du Vatican, dont Pie XII va se faire le défenseur. Il y a plusieurs acteurs au-delà du pape lui-même. Donc Pie XII est élu pape le 2 mars 1939, donc quelques mois avant le déclenchement du conflit mondial. Il se place en défenseur de la paix, rappelle la neutralité du Vatican. Et il entend donc démontrer ce rôle impartial, même face à l'invasion brutale de la Pologne par l'Allemagne nazie, et notamment la persécution de prêtres catholiques en Pologne. Le primat de Pologne, le cardinal Auguste Lionde, se rend à Rome et supplie le pape d'intervenir. On lui répond que le Saint-Siège doit maintenir son impartialité dans les affaires de la guerre et ne peut pas intervenir sur cette question. Donc il n'y a pas de condamnation explicite des atrocités nazies, ce qui fait qu'une partie des catholiques polonais reste désemparée. Et cette ligne, en fait, adoptée face à l'invasion allemande de la Pologne sera la ligne, disons, constante du Vatican durant la Seconde Guerre mondiale. La réponse typique étant... Que le pape ne peut pas condamner le régime nazi de peur de provoquer un schisme au sein des catholiques allemands et de provoquer des représailles contre l'Église en Allemagne. Donc le souci de préserver l'Église comme institution mondiale est premier, ce qui explique cette diplomatie prudente. Mais il y a aussi des raisons plus politiques qui peuvent être celles d'un anticommunisme virulent au sein du Vatican et qui expliquent notamment la volonté de ne pas rompre les relations avec l'Allemagne qui est vue comme un rempart contre le communisme.
Même audio, une mémoire sonore.
Tout, je le disais avant, tout au Vatican ne se résume pas au pape. Et ce qui est intéressant, c'est que le Vatican est une véritable machine, disons, d'une diplomatie de la charité, une machine humanitaire. Et on a notamment plusieurs bureaux qui se mettent en place dès 1939, une commission secours, un bureau information, qui joue justement sur la neutralité du Vatican pour faire circuler l'information entre plusieurs pays. Et ces bureaux sont dirigés par Mgr Montini, qui deviendra le futur pape Paul VI. Les petites mains, disons, qui mettent en place cette assistance sont notamment des sœurs, les sœurs de Saint-Marc. Et les aides sont multiples. Ça peut être de l'argent, des aliments, des médicaments, des livres, des objets liturgiques. Alors, qui sont les bénéficiaires de cette aide charitable du Vatican ? En fait, aux yeux du Vatican, les Juifs ne sont pas une priorité. Ce sont des victimes de guerre, comme les autres, qui ne relèvent pas de sa juridiction ecclésiastique, à moins qu'ils ne soient baptisés. Donc ça, c'est une différence, une distinction importante. Une intervention du Vatican dans la politique antisémite des États nationaux est perçue, du point de vue du Vatican, comme une ingérence dans la politique nationale de ces États. Donc le Vatican s'abstient d'intervenir sur ces questions, sauf quand elles concernent des convertis. Et la plupart des Juifs aidés directement par le Vatican vont être en effet soit des catholiques d'origine juive, qui sont appelés dans les textes littéralement des catholiques non-ariens, soit des familles mixtes dans certains cas, ou des baptisés. Mais à l'égard même de ces catholiques dit n'en a rien, on peut trouver dans certains milieux une certaine méfiance envers ces convertis ou ces baptisés qui sont vus avec suspicion. Et c'est notamment le cas du nonce à Vichy, Monseigneur Valerio Valeri, qui dit littéralement dans une lettre en 1941 « Il faut privilégier les réfugiés catholiques ariens ». Donc voilà. Donc jusqu'en 1942, on a principalement une aide à l'émigration des juifs, des catholiques d'origine juive. Et on a de l'autre une acceptation des lois raciales qui sont vues comme effectivement, qui s'inscrivent dans la tradition, finalement dans la longue tradition de l'Église. Et c'est le cas dans la France de Vichy, en raison donc de l'adhésion d'une partie de la hiérarchie ecclésiastique à Vichy, que ce soit par pétainisme ou par maréchalisme. Et j'ai mis ici une photo qui date de novembre 1942, donc après les protestations, on voit Gerlier, Suard, donc archevêque de Lyon, archevêque de Paris, aux côtés de Laval et Pétain. Donc on a une première, disons, acceptation des lois antisémites, et notamment de la part de la diplomatie vaticane, et donc du nonce Monseigneur Valerio Valeri. Nonce qui, lors de l'annonce donc, du premier statut des Juifs, s'en félicite en expliquant que les Juifs auraient délibérément provoqué la guerre, dans un rapport dès le 4 octobre 1940, mais aussi dans un autre rapport ici inédit, des archives du Vatican, du 29 octobre 1940, où il écrit au cardinal secrétaire d'État Maglione « Les Juifs sont exclus dans l'ensemble seulement de la direction de la chose publique, mais aussi des administrations centrales, de l'armée, de la marine, des postes de direction de certaines entreprises, de la presse, du cinéma, etc. Sur ce point, il ne nous reste plus qu'à remercier le Seigneur lorsqu'on pense au mal qu'il faisait avec ses moyens. » Donc ça, par rapport au premier statut des Juifs. Le second statut des Juifs du 2 juin 1941 suscite davantage de réserves, surtout sur la définition raciale du juif. On a notamment l'archevêque d'Alger qui écrit au nonce et qui écrit à Valla pour protéger les convertis et les baptisés de son diocèse. Et je le cite, « Mes pauvres catholiques qui ont eu quelques juifs dans leur ascendance, jusqu'à quel degré seraient-ils poursuivis par une qualification que toute leur vie réprouve ?» Certains catholiques, cela dit, s'offusquent. Et on a d'une part une aide qui est déployée dans les camps, notamment les camps d'internement du sud de la France. Et Glasberg et Gerlier, l'archevêque Gerlier, protestent de manière privée contre l'internement des juifs étrangers. Et puis on a des anonymes aussi. C'est comme cette lettre, par exemple, que j'ai pu trouver dans les archives du Vatican. Une lettre qui date du 15 octobre 1941 de Paris, d'un groupe de catholiques, une lettre anonyme, français et même étrangers, est-il souligné, depuis Paris, qui dénonce les mesures antisémites adoptées en France en 1941, qui prit le pas d'intervenir pour que les Juifs soient davantage respectés. Et c'est une lettre intéressante parce qu'elle souligne les liens de continuité entre judaïsme et christianisme, en rappelant la judéité de Jésus, la judaïté de Marie. Donc c'est un aspect qui est un peu précurseur, d'ailleurs, pour cette époque-là. Donc ça, c'est une des lettres, par exemple, qu'on peut trouver au Vatican. Et puis, bien sûr, il y a les cahiers du témoignage chrétien, et notamment ce numéro d'avril-mai 1942, sur l'antisémitisme. Je cite « Les antisémites interprètent le silence forcé de la nation comme un acte d'acquiescement. Français et chrétiens, nous venons rompre solennellement ce silence. En se prolongeant plus longtemps, ce silence chargerait nos consciences et placerait aux yeux du monde étonné toute la France, et surtout la France chrétienne, en état de complicité. » Voilà, donc les cahiers du témoignage chrétien avec notamment Germaine Ribière et le père Chaillet à Lyon, mais dans des réseaux qui sont aussi influents ici dans cette région. Alors le tournant de 1942, donc voilà, je ne reviens pas sur ces lettres, mais juste pour souligner, comme l'a fait Antoine avant, notamment la lettre de Théas qui me semble la plus forte et la plus claire parce qu'elle mentionne notamment la rafle du Veldiv. Et Théas écrit « Les mesures antisémites actuelles sont un mépris de la dignité humaine, une violation des droits les plus sacrés de la personne et de la famille. Je fais entendre la protestation indignée de la conscience chrétienne et je proclame que tous les hommes, ariens ou non ariens, sont frères parce que créés par le même Dieu. » Donc ces lettres ont un retentissement très important. J'y reviendrai pas dessus puisque c'est des aspects déjà un peu connus, mais on a essayé de montrer dans l'exposition que chacun, autant Saliège que Gerlier, avait reçu par exemple des menaces de mort. Vous voyez là ici une caricature de « Je suis partout » du journal antisémite « Je suis partout » contre Gerlier, et une menace de mort, un dessin bon, c'est un cercueil très mal dessiné, mais qui avait été envoyé à Gerlier. Donc ça, ça vient des archives de Cézanne de Lyon. Mais à Toulouse, on trouve également la même chose. On trouve également beaucoup de lettres qui remercient ses éminences pour avoir justement rompu le silence. Oui. Alors, qu'en est-il du nonce ? Alors, j'ai déjà souligné l'antisémitisme du nonce. On a ici également une autre lettre de 17 décembre 1942, donc après les rafles, où il dit « À propos des Juifs, il est curieux de noter, ce qu'on a dit récemment, qu'il est assez rare de voir à Paris des personnes avec la fameuse étoile sur leurs vêtements. Donc, ou les Juifs ont disparu, ou bien ils ont déjà étudié une combine pour s'en sortir. » Qu'on voit un langage qui est peu humaniste. Une partie de l'historiographie française avait émis l'hypothèse d'une possible intervention de Valéry, enfin du pape, via Valéry, dans les protestations des évêques. Selon moi, il s'agit d'un raisonnement par induction qui est un peu cette même logique que tout découlerait du pape. Et c'est une hypothèse qui me semble, cette hypothèse d'une intervention vaticane, qui me semble peu solide pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'elle n'est pas nécessaire, c'est-à-dire que les évêques respectent leurs prérogatives définies par le droit canon en faisant lire ces lettres. D'autre part, les évêques eux-mêmes, protestataires, ont souligné le manque de coordination au niveau national collectif. C'est notamment le cas de Moussaron, donc à Albi, qui écrit à Gerlier fin août, en lui demandant que quelque chose de collectif soit fait. Mais en lui disant, il a été bien décidé, effectivement, de ne pas faire quelque chose de collectif, mais je pense que ce serait nécessaire. Et Gerlier lui dit qu'il est plus prudent d'attendre, qu'il y a des initiatives personnelles qui sont prises. Donc c'est bien l'idée d'initiatives personnelles. D'autre part, plus probant encore, on a l'absence de documents dans les archives du Vatican qui va dans le sens d'une quelconque intervention. On a plutôt une constatation a posteriori de la part du nonce, de la part du cardinal Malione, et puis du pape, seulement le 16 octobre 1942. Je cite, le Saint-Père en a pris connaissance, c'est-à-dire on a pris connaissance des lettres de Saliège et de Théas seulement, donc sans commentaire. Ensuite, juste pour comprendre, le pape intervient rarement à la première personne sur toutes les questions qui concernent la persécution des Juifs. Il laisse explicitement une grande autonomie aux hiérarchies ecclésiastiques locales. Et c'est ce qu'il réitère en avril 1943 dans une lettre à l'évêque de Berlin, en lui disant sur la question juive, les pasteurs locaux sont libres d'évaluer les risques encourus par l'Église. Et enfin, un dernier point, c'est la création du mythe d'une protestation pontificale à travers la voix de Saliège, à travers la voix de Théas, par la presse des pays neutres et des pays des alliés, qui, dès septembre 1942, titre « Le pape proteste contre les rafles des Juifs en France », mais en réalité, on ne se réfère qu'à Saliège. Quelle est donc la réception des lettres par la diplomatie du Vatican ? Le conseiller à la nonciature, donc l'adjoint de Valéry, Pacini, écrit à Malione le 21 septembre 1942. On parle de ces lettres de l'épiscopat et on en discute, mais seulement entre personnes de confiance. Mais il y a quelques jours, dans une petite ville du sud de la France, des communistes qui voulaient organiser une manifestation anti-gouvernementale, donc anti-Vichy, à laquelle ils donnaient un caractère patriotique, ont affiché de nombreuses copies de la lettre de Mgr Saliège sur les murs des maisons. Et cela a fait une forte impression. Donc on voit ici, on a surtout une peur de l'instrumentalisation politique de ces lettres. Et de fait, l'annonciature se réjouit des manifestations d'allégeance, de loyalisme, faite après par Saliège, Gerlier notamment, envers le régime de Vichy. L'idée, c'est de ne pas compromettre les relations entre l'Église et Vichy, tout simplement parce que l'Église espère tirer profit de cette collaboration. Alors cela n'est bien sûr pas... alors là, juste une dernière constatation de Valéry qui écrit au cardinal le 22 octobre, cardinal secrétaire d'État, « J'ajoute que l'on traverse actuellement une période de calme, on ne parle presque plus de la question juive, et il paraît aussi que les envois des non-ariens en Europe de l'Est soient suspendus. Le problème à l'ordre du jour est plutôt celle de l'envoi en Allemagne des ouvriers spécialisés, donc la question à venir effectivement de la STO. » Cette forme d'indifférence ou de préjugé n'est pas incompatible avec une aide sur le terrain. Et le Saint-Siège envoie des fonds dans plusieurs diocèses et archidiocèses, notamment à Toulouse, pour les réfugiés et pour les victimes de guerre, qu'elles soient juives ou non-juives, sans forcément de distinction. C'est à l'ordinaire, c'est-à-dire à l'archevêque, en l'occurrence à Liège, de choisir comment il veut les répartir. Et donc, par exemple, Monseigneur de Courrèges informe le nonce, le 26 octobre 1942, de la colonie, de l'accueil d'enfants juifs à Vendine. Et le nonce Valéry lui répond, le 22 novembre 1942, « La maison d'accueil de Vendine pourra sans doute faire beaucoup de bien à ces pauvres malheureux petits. Vous avez bien fait sans doute d'y accueillir aussi des enfants juifs. Il faudra cependant faire attention afin que sur le plan religieux, leur présence ne nuise pas à leurs camarades. » Donc leurs camarades catholiques. Donc on retrouve ici cette ambivalence, l'aide mais aussi les préjugés. Je vais revenir au Vatican, au contexte du Vatican à l'automne 1942. Que pouvait savoir le Vatican de la Shoah ? C'est une question qui est souvent posée. En réalité, elle est à déplacer parce qu'on sait que le Vatican recevait beaucoup d'informations dès 1941 par ses réseaux diplomatiques, par les réseaux italiens, mais aussi par les alliés à partir de l'été 1942. Et c'est notamment un rapport qui est envoyé par le représentant des États-Unis au Vatican, Myron Taylor, le 26 septembre 1942, un mémorandum sur l'extermination des Juifs, donnant beaucoup de détails. Le pape en prend connaissance le 27 septembre, mais il demande à ce que ces informations soient vérifiées. Et on confie alors un rapport à Mgr Angelo Dell'Acqua, qui est un administrateur au sein du Vatican, chargé des questions dites juives, et qui est particulièrement imbu de préjugés antisémites. Il rédige une note interne, le 6 octobre, qui explique que ces informations sont peu vérifiables car l'exagération est facile chez les juifs. Et j'ai synthétisé la citation parce qu'elle est longue, mais les protestations récentes des évêques français, en tout cas, protestations que l'on croit suggérées par le Saint-Siège, donc c'est intéressant que le Vatican lui-même est conscient de ce qui circule dans la presse, sont suffisantes pour prouver la désapprobation de l'Église catholique face à de tels actes inhumains. Et de plus, les anglo-américains ne manquent pas d'en tirer profit. Donc la peur d'une instrumentalisation de cette déclaration, une potentielle déclaration du pape, par les alliés, alors que le Vatican veut maintenir sa neutralité diplomatique et que, effectivement, le tournant de la guerre n'est pas encore, du point de vue du Vatican, advenu. Donc l'idée de ne pas s'aliéner le régime nazi. Mais le Vatican est à cette époque un réceptacle d'informations et de suppliques envoyées notamment par des juifs sur la situation, notamment en Pologne. Et ici, j'ai mis parmi de multiples lettres celle du grand rabbin de Jérusalem qui écrit en français au secrétaire d'État du Vatican le 3 novembre 1942 et qui alerte le Vatican sur les holocaustes, je cite, les holocaustes systématiques des Juifs en Pologne. Et il prie et supplie pour une intervention du Vatican. Donc il y a de nombreuses pressions exercées sur le Vatican, ce qui explique en partie le discours de Noël 42 du pape. Le discours radio du pape, Pie XII est le premier pape médiatique, prononce un discours la veille de Noël qui est la seule mention mais implicite possible au génocide des Juifs. C'est la seule allusion voilée qui se situe à la fin d'un discours très long. Et on a trouvé récemment dans les archives du Vatican le seul brouillon préparatoire de ce discours. À la fin de son discours, le pape adresse les prières de l'humanité à, je cite, la centaine de milliers de personnes qui, sans faute de leur part, pour des raisons de nationalité ou d'origine, sont destinées à la mort ou à un dépérissement progressif. La version précédente, qu'avait rédigée le pape, mais à laquelle il a renoncé, prévoyait des personnes envoyées à la mort ou condamnées à un dépérissement progressif. Donc, ce qui se réfère à une condamnation, donc à des coupables. Un archiviste du Vatican, Giovanni Cocco, a émis l'hypothèse que le ton du réquisitoire a été légèrement atténué. On a un autre discours qui est prononcé le 2 juin 1943, mais en interne, au Sacré Collège, et qui utilise un peu la même formulation, le pape disant à ceux qui sont tourmentés en raison de leur nationalité ou de leur race par de grandes calamités et des douleurs plus aiguës et plus graves, et destinés parfois, même sans leur propre faute, à des contraintes exterminatrices. Ce qui est intéressant, c'est que ce discours après a été repris, notamment par la Croix. Alors, pour conclure sur le Vatican ici, le Vatican intervient en réalité dans les contextes où il estime avoir un possible succès. Donc, c'est-à-dire dans des pays en fait alliés ou dans les pays satellites du Reich avec une forte composante catholique, l'Italie avant 43, avant l'été 43, la Croatie, la Slovaquie et la Hongrie. C'est surtout après le tournant de 1942-43 que certains représentants diplomatiques du Vatican, Mgr Rota à Budapest, Mgr Casulo à Bucarest, Mgr Roncalli à Istanbul, c'est ces trois représentants notamment qui vont intervenir de plus en plus pour les Juifs, rester juifs en religion, et pas seulement les juifs convertis, mais avec toujours la perspective de les convertir. Donc la perspective conversionniste demeure. Le Vatican, lui, est directement concerné par les persécutions antisémites à partir de l'occupation allemande de Rome, de septembre 1943 à juin 1944, quand les déportations, les massacres se déroulent sous les fenêtres du pape. Dans un contexte où l'Église romaine craint pour sa propre survie, le pape ne se prononce pas sur les déportations, les rafles et les massacres, mais de nombreuses institutions romaines vont ouvrir leurs portes, aux réfugiés en général. Donc, pour conclure, également l'idée qu'une autre voie était possible. Et je me réfère ici, par exemple, aux évêques des Pays-Bas. De multiples lettres des évêques, et notamment sous la direction de Jong, ont été prononcées pour dénoncer les déportations des Juifs, explicitement. Et les représailles nazies contre l'Église elle-même n'ont pas empêché ces évêques et archevêques de continuer à protester contre les déportations. Et notamment, je cite ici, parce que je la trouve très forte, la lettre pastorale du 12 mai 1943, qui dit donc effectivement « En tant que pasteur de vos âmes, nous n'avons pas le droit de garder le silence sur ce qui vient d'être perpétré envers notre peuple. Les générations futures estimeraient honteux que nous n'ayons pas réagi à de telles injustices. » Donc on voit ici une sorte de conscience du jugement de l'histoire à venir, ce qui est intéressant dans cette citation. Et pour conclure sur cette question du jugement de l'histoire, on a un éditorial de combat dès le 26 décembre 1944, signé Albert Camus, qui, après le discours de Noël du pape Pie XII, donc le discours de Noël 1944, où le pape se rallie à la démocratie et aux alliés, Camus écrit « Il y a des années que nous attendions que la plus grande autorité spirituelle de ce temps voulût bien condamner, en termes clairs, les agissements des dictatures. Disons-le clairement, nous aurions voulu que le pape prît parti au cœur même de ces années honteuses et dénonça ce qui était à dénoncer. » Et il conclut « Notre monde n'a pas besoin d'âmes tièdes, il a besoin de cœurs brûlants. » En 1997, la conférence des évêques de France réunie à Drancy déplorait, regrettait le silence de l'Église, notamment face au statut des Juifs, et condamnait ce qu'elle estimait avoir été un repli sur une vision étroite de la mission de l'Église. Cette mission étroite, celle que j'ai essayé de vous présenter, c'est ce repli sur la protection des droits de l'Église, la protection avant tout des convertis. C'est cette même concentration sur les intérêts seuls de l'Église qui est dénoncée également par les évêques catholiques allemands, tout récemment dans une conférence épiscopale à Bonn, le 29 avril 2020. Cette déclaration qui a été publiée souligne l'illusion de la hiérarchie catholique de l'époque à défendre seulement ses fonctions, les fonctions apostoliques de l'Église, tout en soutenant le régime nazi. Et ainsi à vouloir mener, selon l'expression empruntée au philosophe Théodore Arnault, une vie juste dans l'erreur. Une vie juste dans l'erreur. Je vous remercie.
Merci beaucoup Nina pour de nombreuses choses, notamment peut-être de nous avoir sorti d'une vision peut-être par trop toulouso-centrée en ces périodes mémorielles et commémoratives, et d'avoir aussi bien décrit le nonce apostolique. Tu sais comme j'aime que l'on mette cette figure sur le devant de la scène et passer par Camus est toujours une scène ouverture. Avant l'intervention de Patrick Cabanel, une question pour moi sur cette aile réactionnaire, plus réactionnaire en tout cas, ou plus traditionnaliste au sein de l'Église catholique. Est-ce qu'on a une possibilité aujourd'hui de savoir l'écho qui a été donné à leur voix et la et la notoriété, ou en tout cas popularité, ou l'écoute dont il bénéficiait au sein de l'ère des fidèles.
Alors, en ce qui concerne la diplomatie du Vatican, c'est purement interne, mais ça a une conséquence sur la politique, effectivement, du Vatican et sur les rapports entre le Vatican et les différents gouvernements. Donc, effectivement, Valérie a une influence sur le gouvernement de Vichy. Et d'ailleurs, protester hein, pour certaines choses, mais qui concernent surtout les convertis, qui concernent surtout une potentielle instrumentalisation de l'histoire de l'Église, par exemple, après le deuxième statut des Juifs. En ce qui concerne à l'intérieur du Vatican, le conseiller, par exemple, Mgr Angelo Dalla, est écouté, puisqu'il est conseiller en dite affaires juives. Donc ce n'est pas la seule voix au sein du Vatican. Il y a des voix qui ont contrasté, notamment celle de Montini, futur pape Paul VI, qui est beaucoup plus dans une perspective démocrate, enfin déjà un peu de démocratie chrétienne, disons-le, qui est en charge de toute l'assistance au Vatican. Donc on a là, effectivement, des voix contrastées. Ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de Della, son rapport a une influence. Je suis passée rapidement parce que j'avais plus trop de temps, mais j'avais un slide sur ça, sur le fait qu'après, le cardinal secrétaire d'État envoie une réponse aux Américains en disant « Nous ne pouvons pas vérifier ces informations. » Voilà, donc. Alors que le Vatican a des informations, en réalité. Après, on peut parler de ce qui concerne la voix des évêques et des archevêques, qui, elle, effectivement, est portée dans les diocèses et dans les archidiocèses. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'elle circule beaucoup dans la presse. Donc, par exemple, ce qui a donné autant d'écho à Saliège, c'est finalement que ça a été repris dans notamment les journaux clandestins de la presse résistante, beaucoup, mais aussi à l'étranger, comme je l'ai signalé. Et donc voilà, donc effectivement, un écho qui dépasse le cadre seulement du diocèse ou de l'archidiocèse. Enfin, on trouve des lettres anonymes qui peuvent être très intéressantes. Et ça, c'est vrai que en dépouillant un peu les archives à Lyon et à Toulouse, on voit beaucoup, on voit plus de lettres qui remercient Gerlier et Saliège que de lettres qui, disons, les menacent. Mais les deux existent. Et les lettres de menace peuvent être très très virulentes. Et les lettres de remerciement sont souvent, viennent de civils ou de clercs, et en gros disent merci d'avoir rompu ce silence qui était compromettant en fait pour l'Église. Mais on trouve aussi des lettres, par exemple une lettre anonyme qui avait été envoyée au gouvernement de Vichy d'un curé de Marseille contre Delay en disant que c'est un gaulliste, voilà. Donc on a des réactions contrastées.
Même audio, une mémoire sonore.